Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, intriga. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Sarah a découvert à l'âge de 12 ans qu'elle avait deux utérus, une nouvelle avec laquelle elle va devoir se construire en tant que femme, dans son quotidien, sa sexualité et plus tard dans sa maternité. Les médecins sont d'ailleurs pessimistes quant à une possible grossesse, mais Sarah va rebattre les cartes de sa fertilité. À 19 ans, elle tombe enceinte, et même si ce n'est pas le bon moment pour elle pour devenir mère, elle est rassurée de savoir que cela peut fonctionner. Pourtant, lorsqu'elle décide quelques années plus tard d'avoir un enfant, il ne se passe rien. Alors, elle va se tourner vers la PMA, mais trop intrusive et compliquée lorsqu'il y a deux utérus, Sarah décide finalement d'arrêter son parcours et tombera enceinte naturellement. Dans cet épisode, Sarah nous raconte la découverte de sa particularité à l'adolescence, comment elle vit avec, tout son parcours pour tomber enceinte, les débuts de sa grossesse dans le plus petit de ses deux utérus, son bébé en siège et donc une césarienne pour accoucher. Elle nous raconte aussi sa rencontre furtive avec son bébé et les nombreuses complications qui vont suivre avec ses utérus à cause d'une hémorragie de la délivrance et d'une erreur médicale. Bonne écoute.
Bonjour Sarah.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Avec plaisir.
Alors, toi, tu es la maman d'un petit garçon.
Ouais.
Quel âge il a ?
Là, il a 9 mois.
9 mois. 9 mois dedans, 9 mois
c'est
dehors.
C'est ça, exactement, depuis 2 jours.
Alors, on va revenir avant ton entrée dans la maternité. Toi, quel regard tu portais sur la maternité avant de devenir maman ?
Je crois que déjà, j'ai toujours voulu être maman. Je travaille avec des adolescents, je pense que je suis enseignante. Et puis, je crois que j'ai toujours... En fait, ça m'arrivait souvent, même dans un événement type un mariage, de plus m'amuser avec les enfants qu'avec les adultes.
Ah oui.
donc, je me disais qu'effectivement, c'était quelque chose que j'avais envie très jeune de faire, je pense. Enfin, j'avais ce projet-là en tout cas. Mais je savais depuis que j'étais jeune que ce serait peut-être un peu compliqué pour moi.
Pour quelle raison ?
Parce qu'on a appris quand j'avais 12 ans que j'avais deux utérus.
Ok.
Je savais que j'avais qu'un seul rein depuis que j'avais 4 ans. Mais lors d'une échographie de contrôle, on m'a dit en général, les femmes qui ont qu'un rein ont deux utérus.
Ah oui.
Voilà, c'est logique quoi. Ça arrive la plupart du temps, c'est le cas en tout cas. Vu que ça se forme en même temps à la 7e semaine lors de la grossesse. Et donc, à ce moment-là, la tambouille ne se fait pas très bien. Donc, je savais ça, donc c'était quelque chose qui me questionnait déjà beaucoup, en fait.
Et alors, comment t'as su que tu avais deux utérus ?
Une échographie quand j'avais 12 ans, donc peu avant d'avoir mes règles. On m'a dit peut-être que tu te développeras pas, peut-être que tu n'auras pas tes règles en fonction de la malformation. Donc, il y a eu un petit moment où je me suis posé un peu la question. Je pense que c'est pour ça que le thème aussi des intersexes aussi m'intéresse, en tout cas m'interpelle, parce que je me suis sentie à un moment donné à me demander est-ce que du coup je vais être ou pas entre deux. Et en fait non, j'ai eu mes règles normalement, même si elles étaient très douloureuses. Donc je me suis dit bon, déjà ça c'est bon. Mais je savais pas trop après qu'est-ce que ça impliquait comme enjeu, que ce soit pour ma sexualité ou pour la suite quoi.
Ouais. Qu'est-ce qu'il t'avait dit à ce moment-là, le médecin ?
À ce moment-là, on m'a beaucoup rassurée en me disant vous verrez. En temps voulu. Voilà. Et donc, quand j'ai refait des examens, quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, ça n'a pas été hyper simple non plus. Donc, du coup, on a quand même fait plus d'examens pour voir comment était la malformation.
D'accord. Et donc là, vous avez vu quoi ?
Parce qu'il y a plusieurs types, en fait, de malformations utérines. Il y a les utérus cloisonnés, dont on entend un peu plus parler parce qu'il y en a beaucoup. les utérus bicornes, qui ont donc deux cavités mais un seul col, et les utérus bicornes bicervicaux, qui eux ont deux cavités plus deux cols, et les didelphes, ce que j'ai, qui est plus rare, c'est-à-dire quand il y a la totale. La totale, c'est que... Alors moi, je suis presque la totale, c'est-à-dire le didelphe, il a deux vagins aussi.
D'accord.
Et moi, j'allais pas jusqu'au double vagin, mais j'avais une paroi dans le vagin que j'ai gardée jusqu'à il y a trois ans et demi. Ouais.
D'accord. Et donc là, on te dit qu'il y aura des complications sur quelque chose, sur ta sexualité, sur le fait d'avoir des enfants.
Ben, sur la sexualité, pas forcément, parce que si on me dit à 16 ans que je peux éventuellement enlever cette paroi, mais que c'est pas obligatoire, donc je me dis que je veux pas me faire opérer. Les débuts de la sexualité sont un peu compliqués, mais je me dis, bon, après, ça va, donc j'ai gardé cette paroi. Et puis, j'avais pas compris, en fait, qu'elle était si importante. Je crois que je comprenais pas trop non plus ce qu'on m'avait raconté. Et pour la suite, on m'avait juste dit que j'avais plus de risques éventuellement de fausse couche.
D'accord, ok. Mais la grossesse était possible.
Voilà. Après, j'ai eu une grossesse par accident à 19 ans, où là, ma gynéco m'a dit « mais c'est une super nouvelle pour vous », alors que je n'avais pas du tout prévu de tomber enceinte, parce que c'était vraiment oubli de pilule. Et je me suis dit « ah bah finalement, je tombe enceinte sans problème ».
Ouais, donc ça t'a rassurée dans un sens
Ouais, de me dire « le jour où je voudrais des enfants, bah, ça va se faire facilement ».
Ouais. Et comment tu l'as vécu, toi, toute cette information différente sur ton utérus, ce double utérus?
Bah, ça me questionnait pas mal, même en tant que femme, en tant que dans ma construction. Je sais que j'avais fait l'erreur de le dire à un copain qui m'appelait double UT. Et j'étais, voilà, il y avait ce truc qui se voit pas, mais en même temps de se sentir un peu chelou.
Ouais.
Donc, ça m'a pas mal questionnée, même dans mes rapports avec les... En tout cas, quand je me lançais dans une relation, ça me questionnait un peu. Après, sur la première grossesse, ce qui avait été drôle, c'est que pour la première grossesse, le gynéco, il trouvait pas ma grossesse, en fait. Parce qu'il regardait dans le mauvais utérus et j'ai mis du temps avant de lui dire « Ah, désolé, j'en ai un autre !» Et il a galéré, ça a été compliqué pour qu'il trouve ma grossesse et confirme que, effectivement, c'est ce qui me fait penser, en fait, que j'ai qu'un seul utérus sur les deux qui fonctionne. Parce que, justement, c'était pas facile d'accéder à cet utérus-là.
D'accord.
Voilà. Et par la suite, ça, pour moi, je pense que j'en ai qu'un qui fonctionne.
Et ils n'ont pas su te dire encore
Il n'y a pas de raison, d'après les examens, pour lesquels les deux ne fonctionneraient pas, parce qu'en théorie, je pourrais tomber enceinte plusieurs fois en moins de 9 mois. Il y a un épisode de Grey's Anatomy là-dessus, je crois que c'est possible, mais dans les faits, ça m'a plutôt fait galérer.
D'accord. Et alors, comment vient cette décision de devenir mère, parent et ton conjoint?
Parce que je trouve le bon monsieur, que je trouve chouette. Donc, au bout de 2 ans, on a eu envie de faire un bébé. J'avais 30 ans, donc on se disait qu'on se sentait prêt. Et on a essayé 2 ans avant de finalement être orienté vers de la PMA.
Ah oui, d'accord. Comment ça s'est passé pendant ces 2 ans? Et toi, est-ce que toi, justement, du fait de cette première grossesse que tu avais eue plus jeune, donc tu pensais que tu pouvais tomber facilement enceinte, est-ce que ça a été... une mauvaise surprise, du coup, de voir que ça ne fonctionnait pas au fil des mois?
Oui, surtout parce que comme on m'avait annoncé que j'aurais certainement plusieurs fausses couches avant de réussir à avoir un bébé, le fait que ça prenne pas et que ça mette autant de temps, je me disais, avant que ça marche, ça va être très, très compliqué, quoi.
Ah oui.
C'est pour ça que je pense qu'on m'a assez rapidement orientée vers la PMA quand même.
Ouais. Et t'as fait des fausses couches entre-temps ou
non,
pas du tout?
Non, jamais. Ou elles étaient très précoces, mais je pense que non, ça ne m'est jamais arrivé.
D'accord, ok. Donc au bout de 2 ans, parcours de PMA, comment tu le vis, toi, le fait d'entrer dans un parcours de...
Je découvre ce monde très technique, où ça donne des compétences en vocabulaire aussi, parce qu'on pénètre dans tout un univers où il y a tout un... C'est ça, un vocabulaire à connaître. Et j'ai fait beaucoup d'inséminations d'abord, j'en ai fait 5. Et on passait pas tout de suite à la FIV, vu qu'ils disaient qu'il n'y avait pas forcément de raison et que j'étais encore jeune.
Mais alors, au niveau des inséminations, comment ça se passait pour toi, vu qu'il y a deux...
C'est ça qui pose problème, c'est que comme j'ai deux utérus, en fait, ils ne voulaient pas faire d'insémination, ni de FIV par la suite, parce que j'en ai fait une, dans le petit utérus. Parce qu'en gros, dans mes deux utérus, j'en avais un qui était plus petit et difficile d'accès parce qu'il y avait la paroi qui empêchait d'accéder, en fait. Donc, je vivais l'enfer à chaque fois qu'on me faisait un examen gynéco en essayant d'aller par là. Donc, eux, ils décidaient d'aller que à droite et d'aller dans le grand. Donc, le problème, c'est que c'était du coup pas tous les mois que j'ovulais de ce côté-là.
Ah.
Donc, on était souvent embêtés. Bon, après, c'était pas grave. Pour la FIV, c'était pas grave, mais c'était un peu embêtant pour les inséminations, justement.
Ah oui, d'accord. Parce que l'un pouvait ovuler à un moment ou l'autre.
Bah, un mois sur deux, souvent, bah, c'est l'un ou l'autre d'ovaire qui travaille. Donc, du coup, s'il ne voulait pas se mettre à gauche, j'étais obligée d'attendre un mois sur deux.
D'accord, ok.
Donc, on l'a fait pas mal de fois, 5 fois, et ça n'avait pas fonctionné. Ouais.
Comment tu vivais ça, le fait que ça ne fonctionne pas ?
Bah, c'est des moments très difficiles. Je pense que toute personne qui a été en PMA découvre ces montagnes russes d'émotions, surtout qu'on est blindé d'hormones, on ne s'attend pas du tout non plus à ce que vont faire les traitements sur nous. Moi, je disais que je me transformais en Hulk rose qui chialait. J'ai l'impression, pareil, je pensais aux gens qui prennent des hormones pour des transitions. Je disais vraiment à quel point les hormones sont constitutives de tout, quoi. Enfin, j'avais cette impression de métamorphoser. Ouais.
Et donc après, vous passez à une FIV. Ça fonctionne à ce moment-là ?
Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on devait me mettre. Au départ, j'en avais 17. Finalement, il n'y en a plus que 9. Et en fait, il y en a un seul qui survit d'embryon. Les autres se craquent. Enfin, on essaie de m'expliquer qu'ils n'ont pas tenu. Donc, on se demande s'il n'y a pas d'autres soucis au niveau de la fertilité. Et on doit me le mettre un dimanche. Et sauf qu'on annonce, ça monte, parce qu'il se met à y avoir le confinement, qui s'annonce plus ou moins, on s'y attend. Et finalement, on nous annonce qu'on va être confiné à partir du lundi ou du mardi, je crois. Donc, le samedi, on m'appelle pour me dire qu'on ne va pas me mettre l'embryon. Et donc, je vais attendre qu'il va rester au frigo. Donc, on a attendu que ce soit réautorisé d'aller faire de la PMA, parce que ça a mis vachement de temps, en fait, avant qu'ils réautorisent. Et ça a été fin juin qu'on a eu réautorisation des PMA. On m'a fait le transfert d'embryon et il n'a pas fonctionné.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est là où j'ai dit, je fais une pause, j'en ai vraiment marre. Je veux qu'on me laisse tranquille. Et je suis tombée enceinte spontanément en septembre. Après, beaucoup de gens disent c'est le lâcher prise qui joue, mais il y a quand même le fait qu'on m'a opérée de ma paroi vaginale. On m'a enlevée la paroi, et du coup, les femmes qui ont ma malformation, en tout cas les rares que je connais ou avec qui je communique, je leur dis vraiment de le faire, d'enlever leur paroi, parce que je pense que c'est ce qui a permis de plus accéder au petit utérus qui a fait qu'il s'est logé dans celui-là, quoi.
D'accord. Donc, jusqu'à présent, tu n'avais jamais parlé de te faire opérer justement pour enlever cette paroi ?
Ouais, j'ai oublié ce détail. C'est que comme j'avais très mal lors des examens, et que pour les filles, il fallait aller chercher les ovocytes. Donc, on devait aller voir du côté gauche. Donc, c'est pour ça. Elle m'a dit, je ne sais pas si ça aidera la fertilité, mais on va enlever la paroi pour vous faciliter la vie, pour que ce soit moins douloureux, en fait.
D'accord, ok. Mais jamais il l'avait évoqué dans le cas d'un désir de grossesse sans PMA ?
Non, et j'avais tendance à leur dire, je pense que celui-là fonctionne, vu que je suis tombée une fois enceinte et que le gynécologue a galéré à accéder et à trouver ma grossesse, donc je pense que celui-là fonctionne. Mais on me disait, non, il est trop petit, on ne prend pas le risque, parce qu'il risque de ne pas tenir une grossesse complète.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça en disant, on enlève pour une question de confort, mais on ne tentera pas de PMA de ce côté-là.
D'accord, ok. Donc toi, pendant ces 4 mois-là, à partir du moment où tu décides de faire une pause, est-ce que tu imagines un seul instant tomber enceinte sans aide médicale ?
Bah non, vu que ça fait 5 ans que j'essaye, je ne suis plus du tout là-dedans. Et donc, non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai même appris en grosse gueule de bois que j'étais enceinte et je ne comprenais pas, quoi. Je ne savais pas si j'étais contente, j'étais juste complètement choquée, quoi.
Ah oui.
J'étais vraiment lâchée prise en me disant bon, on verra plus tard, on fait une pause, quoi.
Ouais. Et comment tu t'es dit que tu étais enceinte ? Tu as eu des premiers symptômes ?
Eh bien, j'étais avec des copines pour le départ d'une amie et en fait, je me sentais un peu bizarre quand même. Donc, je suis allée dans les toilettes d'un café me faire un test de grossesse, mais je n'ai pas attendu assez longtemps parce qu'elles m'ont pressée. Elles m'ont dit dépêche-toi. Et j'ai vu que bon, ça n'apparaissait pas direct. Je me suis dit bon, c'est bon, j'hallucine, donc je peux m'autoriser à boire un verre. Donc, on a picolé pour fêter ça. Et le lendemain, j'ai ressorti en fait le test que j'avais remis dans sa boîte et j'ai vu qu'il était positif. Donc j'ai trouvé ça très bizarre. Je me suis dit, bon, ça veut rien dire. Et donc je suis allée acheter un autre test qui m'a confirmé que j'étais enceinte.
Et alors, là, comment t'as réagi?
Eh bien, juste, on se comprenait pas. Je regardais mon conjoint, on me disait, mais ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible. Donc, c'était super, mais en même temps, c'était beaucoup de crainte, parce que justement, avec cette histoire de savoir s'il y avait risque de fausse couche, de ne pas s'enthousiasmer non plus trop, d'être, d'y aller tranquille, quoi. Donc, j'ai fait les tests, mais tant qu'il n'y avait pas cette fameuse échographie des 3 mois, ouais, c'était beaucoup de questions, quoi. Mmh.
Et alors justement, comment ça se passe la première écho? T'as 2 utérus, comment s'organise l'échographiste?
Là, c'était l'obstétricien. On m'a mis donc dans un gros hôpital pour pouvoir avoir des gens compétents. Et donc, je suis arrivée et puis j'ai eu envie que celle qui me fasse la première écho. Parce qu'avant l'écho des 3 mois, j'en ai fait une, mais je voulais que ce soit ma médecin de PMA.
D'accord.
Symboliquement, même si ça n'avait pas fonctionné, elle m'avait accompagnée pendant 3 ans. Je voulais qu'elle ait la bonne nouvelle et voilà. Donc du coup, c'est elle qui a fait la première et qui m'a dit qu'il était à gauche. Donc moi, tout de suite, ça m'a fait stresser. Je dis mais vous ne voulez pas faire de PMA là-dedans? Elle m'a dit mais c'est pas grave, ils sont cœur bas, tout va bien, on y va. Et puis voilà quoi, elle a été rassurante. Donc quand j'ai fait celle des 3 mois à l'hôpital cette fois-ci où j'allais être suivie, il a hésité à me cercler au départ. C'est un jeune médecin. Il m'a dit, je ne sais pas si on doit vous cercler. Il a appelé quelqu'un et il a raccroché en disant, non, vous pouvez mener une vie normale. Mais il y a juste plus de risques de prématurité.
D'accord. Donc, tu as eu un suivi particulier de ta grossesse ou
Non. C'est ça qui m'a un peu intriguée. C'est que non, je n'ai pas eu plus de rendez-vous. Je n'ai pas eu plus d'échos. Je n'ai pas eu plus d'examens gynéco. Il m'a dit non, vous pouvez mener une grossesse absolument normale. Ce qui a été un peu difficile pour moi à accepter parce que je suis passée du « je ne sais pas si on doit vous cercler » à un coup de fil et « non, et tout est normal ». Donc du coup, j'étais un peu, c'est radical quoi. Soit on me dit que je peux pas faire de bébé dans cet utérus, ensuite on me dit, je continue en fait à être un petit peu dans cette ambivalence de chercher de la cohérence en fait.
Ouais. Parce que cercler, t'entends quoi par ça?
Cercler, en fait, ça arrive à pas mal de femmes qui ont des risques d'accouchement précoce où on va faire un point en fait, on va fermer l'utérus pour pas que le bébé sorte ou tienne le plus longtemps possible. Et ça peut se faire quand il y a un peu tard dans la grossesse, quand il y a des risques d'accouchement prématuré ou souvent en début de grossesse aussi, quand il y a déjà eu des accouchements prématurés.
Et est-ce qu'il y a un risque du fait que cet utérus-là soit plus petit?
D'après ma gynéco de PMA, elle disait que le risque, c'était qu'il n'arrive pas à s'étendre assez pour aller au bout de la grossesse, vu qu'il était un peu plus petit que l'autre. Ça, c'était le risque. Et du coup, que le bébé n'arrive pas à tenir, donc risque de prématurité.
Et jamais on t'a parlé de faire une ablation d'un des utérus?
Ça, c'est pas possible.
OK.
Ça, pour le savoir, si jamais des femmes ont ma malformation, un utérus cloisonné, ça peut s'opérer, la cloison. Mais 2 utérus, en fait, ça peut pas s'opérer. C'est comme s'il y avait 2 organes, en fait. C'est vraiment... ça peut pas, en fait. C'est très épais et puis c'est pas collé, en fait. C'est vraiment 2 cavités.
D'accord. Et alors, comment s'est passée cette grossesse?
Super.
Ouais.
J'étais hyper heureuse. Une fois que les 3 mois un peu stressants sont passés, on m'a arrêtée rapidement parce que j'ai une amie sage-femme qui m'a dit « Écoute, cette grossesse, tu l'attends depuis 5 ans. Tu fais de la route tous les jours pour aller bosser. Si on est en plein Covid, tu prends pas de risque et tu t'arrêtes. » Donc, je me suis arrêtée au bout de 3 mois parce que j'avais 6 de tension. J'étais crevée. On m'a dit « Allez, hop repos. » Donc, je l'ai bien vécu parce que j'ai eu l'impression de vraiment prendre le temps de le laisser pousser. Donc, les 3 premiers étaient un peu stressants. Et puis après, c'est les 3 derniers qui l'ont été aussi parce qu'il y a la crainte qu'il y ait un souci et que ça aille pas jusqu'au bout, quoi.
Oui. Que montraient les échographies les 3 derniers mois?
Pas de problème, en fait. À chaque fois que je voyais mon obstétricien, il m'examinait pas le col ni rien parce qu'ils disent aujourd'hui, on est plutôt dans des pratiques de pas être intrusif, de pas faire des examens non nécessaires aux femmes qui pourraient être désagréables. Et en même temps, moi, j'étais un peu à l'inverse, avoir envie qu'on pose plus d'examens et qu'on m'embête. Mais on m'a toujours dit que ça allait, qu'il n'y avait pas de souci. À 34 semaines, il m'a dit félicitations, hop, bon, ça roule. Voilà.
Finalement, l'utérus s'est étendu comme il fallait.
C'est ça, et j'ai accouché à 38 semaines d'aménorrhée plus 5. Même si j'avais une semaine d'écart avec mon obstétricien, donc pour moi, j'étais à plus de 39 semaines. Mais bon, il m'a prévu une césarienne qu'à 40 semaines d'aménorrhée. Et c'est ça aussi où je me pose des questions, parce que je suis passée du stade « vous avez des gros risques de prématurité »« ah non, il n'y a pas de souci !» Donc finalement, il était en siège, mon bébé, parce qu'un bébé en siège, dans ma malformation, et souvent dans les utérus bicorne ou cloisonné, souvent le bébé se positionne en siège.
D'accord.
Et c'est plus compliqué pour lui de se retourner. On fait pas de manipulation sur ce genre d'utérus, on laisse tranquille. On a ce temps de voir si ça se fait naturellement. Donc moi, ils m'ont poussé en me disant « on peut vous faire accoucher par en bas, par voie basse ». Je me le sentais pas du tout, j'avais quand même un peu peur. Quand on m'a dit qu'il était en siège, je fais « bon, bah là, on va m'accoucher par césarienne ». Il me dit « non, non, on peut accoucher une femme en siège ». Je fais « mais même celles qui ont deux utérus ». Il me dit « oui, 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 oui ». Et puis finalement, mon bassin, ça passait pas. Les radios montraient qu'il passait pas le bassin. Donc là, enfin, alors que ça faisait au moins 3 semaines, j'ai dit « mais quand est-ce qu'on me fait cette césarienne ?» Qu'on m'a prévu la césarienne à 40 semaines. Et donc, j'ai perdu les os bien avant.
Et alors, comment s'est passée la césarienne ?
La césarienne, je suis arrivée à l'hôpital. On est en plein Covid, donc mon conjoint ne peut pas être aux urgences avec moi.
Ah oui.
J'explique un petit peu en arrivant. Je me fais faire examiner par plusieurs personnes qui n'arrivent pas à trouver mes deux cols. J'ai l'impression un peu que je débarque et que personne n'est trop au courant de ma malformation. On est dimanche soir. Quelle mauvaise idée. Ne perdez pas les os le dimanche soir. Il ne faut pas faire ça. C'est une très mauvaise idée. Et donc, comme je n'avais pas encore commencé le travail, j'ai une obstétricienne qui est venue et qui m'a dit « je suis vraiment désolée, on devrait vous prendre, mais on est débordés. Donc, on va vous faire monter dans les étages et on va espérer que vous ne commenciez pas le travail et vous faire ça que demain matin. » Voilà. Donc, je suis montée. Dès que je suis montée, j'ai fait du travail et très douloureux pendant 5 heures avec une sage-femme, une infirmière qui paniquait un peu, qui disait « mais c'est moi qui leur ai appris ma malformation, elles n'avaient pas mon dossier ». Je commençais à avoir le col qui s'ouvrait, je ne pouvais pas accoucher par en bas, enfin, ça a été vraiment l'enfer. Quoi.
Ah ouais.
Et en fait, c'était une nuit d'enfer pour eux. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une femme d'ailleurs que j'avais rencontrée, qui était enceinte de jumeaux, qui avait un bébé qui s'est coincé. Il y a eu un petit bébé prématuré. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de cas en fait, très compliqués cette nuit-là. Et je n'ai pas eu de bol. Je crois que ça a joué dans l'ensemble. Mais à la fois, c'est aussi un manque de personnel. C'est qu'effectivement, je m'attendais pas, en ayant une grossesse à risque et pas de raison d'accoucher par voie basse, de faire 5 heures de travail gratuit. C'était pas ce que j'attendais.
Oui.
Donc, j'ai fini par avoir ma césarienne avec ma rachianesthésie entre deux contractions vers 5 heures du matin. Et on a tout de suite emmené mon bébé en peau à peau avec mon conjoint. Et moi, j'ai senti assez rapidement quand même qu'il y avait un souci. Et j'ai essayé de poser des questions, mais personne ne me répondait. Je sentais que c'était un peu la panique dans la salle. Et moi, je me suis sentie partir. C'est-à-dire que je tremblais très fort. Je commençais à sentir que... En fait, j'arrêtais pas de dire que je voulais un verre d'eau, alors que j'étais ouverte, ce qui n'était pas très, très logique. Mais je sentais que je me vidais, en fait. Ouais. Et j'ai eu un infirmier qui a été sympa, qui a bien voulu me parler et qui m'a dit « Écoutez, vous faites une petite hémorragie. On est en train de gérer la situation. » On va pas vous donner de verre d'eau, mais bon, là, il se galère un peu parce que quelle idée aussi d'être toute mal formée. Enfin, il essaie de me faire des blagues. Et donc, ça a duré très, très longtemps où je les ai suppliés de me faire une anesthésie générale parce que j'en pouvais plus, quoi. Donc, il y a eu un moment de flottement où je crois, en fait, ça, c'est quelque chose qui est pas très clair pour moi. Je crois qu'ils m'ont refermé, qu'ils m'ont déplacé, ils se sont engueulés de savoir est-ce qu'il fallait continuer à me réouvrir et me faire une anesthésie générale et essayer d'arrêter vraiment le saignement parce qu'ils étaient pas sûrs d'avoir réussi. Ou m'amener me reposer et attendre avant de me reprendre. Et donc, il y a eu débat virulent dans la salle. Et moi, je n'arrêtais pas de dire « Moi, je veux bien une anesthésie générale
». Eh oui, t'entendais tout, toi. Oh là là.
Et donc, ils ont fini par me dire... il m'a regardé l'infirmier. Il m'a dit « Vous avez gagné, vous allez l'avoir, votre anesthésie ». J'ai fait « Merci ». Et je suis partie. Voilà, ça, c'est la première étape. Et je me suis réveillée en salle de réveil, j'ai rencontré mon petit bébé avec mon conjoint qui était en larmes. Moi, je ne comprenais pas pourquoi, je me suis dit, il est ému de la naissance. Je me suis dit, tiens, il est particulièrement ému. Je ne réalisais pas du tout que j'avais des câbles partout et que j'étais vraiment comme un ordinateur. Donc, on m'a mis mon bébé sur moi, il a réussi à prendre le sein tout de suite. Mmh. Et donc, j'ai fait du pot à pot avec lui. avant qu'on me fasse une échographie, qu'on m'explique que je saignais encore et qu'il allait certainement falloir y retourner.
Ah oui, direct.
Ouais, direct, peut-être j'ai passé une demi-heure avec eux. Et puis on m'a dit, en fait, soit on vous fait un scanner et soit on vous fait une embolisation, c'est-à-dire qu'on va essayer d'arrêter le saignement avec une anesthésie locale, soit on repart en anesthésie générale et on va faire une nouvelle opération, une reprise, pour essayer d'arrêter le saignement. Donc voilà, et j'ai fait le scanner, je suis remontée, j'ai attendu dans la même salle où j'avais été avec mon conjoint pendant 5 heures. En regardant une horloge, je n'avais pas de téléphone, pas un bouquin, et j'étais là, j'attendais. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient faire revenir mon conjoint et mon bébé, et en fait, ils étaient débordés. Ils m'ont dit, ben non, parce qu'on ne sait pas quoi dire à votre conjoint, tant que les spécialistes n'ont pas dit ce qu'on vous fait, on ne va pas lui dire des informations alors qu'on ne sait pas. J'ai dit, ouais, mais j'aimerais bien voir mon bébé quand même.
Ben
donc,
oui.
J'ai poireauté 5 heures comme ça. Et lui, pendant ce temps, mon conjoint, il a cru que je me faisais opérer pendant 5 heures. Parce qu'il n'avait pas de nouvelles, en fait. Donc, quand enfin ils me l'ont ramené avec le bébé, j'étais là, oh super! Tout de suite, je pense quelques minutes après, peut-être 5-10 minutes, les deux spécialistes sont arrivés, m'ont dit, madame, on va vous réopérer, anesthésie générale, et si on n'arrive pas à arrêter les saignements, on vous enlève l'utérus. Donc, faut vous y préparer, on vous laisse 5 minutes pour discuter avec votre conjoint et on repart.
D'accord.
Donc, on est reparti, et mon cerveau s'est réveillé pendant l'anesthésie générale. Parce que ça arrive rarement. Mais quand il y a beaucoup d'anesthésie générale à la suite, dans des contextes gynéco, ça arrive qu'il y ait, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, un état de conscience, en fait.
D'accord.
Où j'ai entendu les conversations d'un coup. C'est comme si j'étais dans moi, en train d'entendre tout, les gens qui discutaient, qui se marraient, de sentir qu'on me bourrine le ventre. Enfin, d'un coup, je me suis dit, je vais dire un truc, je vais vomir, ou il va se passer un truc. Mais non, en fait, je comprenais que je ne pouvais pas, que mon corps, en lui, dormait, mais pas ma tête. Et en fait, j'ai entendu d'un coup qu'ils paniquaient parce qu'ils ont vu mon cœur partir et ils ont compris qu'il y avait un problème, donc ils m'ont rallongée.
D'accord.
Je me suis réveillée dans la salle d'opération, pas en salle de réveil, et j'ai regardé le mec et je lui ai dit « je crois que j'ai pas beaucoup dormi ». Et il est devenu blême, il m'a dit « venez ». Et il a voulu discuter pendant une demi-heure avec moi en me disant qu'il était désolé, que ça lui était jamais arrivé, qu'il pouvait être disponible quand je voulais pour qu'on en discute. Et moi, je m'en foutais. On m'avait sauvé mes utérus. Je voulais juste voir mon bébé. Je voulais pas parler avec ce monsieur qui m'embêtait beaucoup. Et je voulais juste boire de l'eau et voir mon bébé.
Voilà. Parce que là, l'opération a duré combien de temps?
Bah, je sais pas bien, parce qu'on m'a fait ma césarienne à 5 heures du matin. Le seul repère temporel que j'ai, c'est 5 heures du matin, on me fait ma césarienne. Je sais pas combien de temps ça a duré. C'était le matin, peut-être 9 heures. Ensuite, quand j'ai fini par être 9-10 heures, peut-être 10 heures quand j'étais dans la salle, il y avait l'horloge. Et ensuite, j'ai ces 5 heures d'attente. Et je sais qu'on m'a amenée vers 1 heure du matin en réanimation. Donc en fait, tout s'est joué sur une journée, mais je ne sais pas exactement les temporalités.
D'accord, ok. Donc là, après l'opération, rebelote, il y a un souci
En fait... sur le coup, on s'en rend pas forcément compte. Ils m'amènent en réanimation pour surveiller les saignements et parce que j'ai pris cher, quoi.
D'accord.
Donc, la première étape, c'est ça. Et puis, j'ai des petits plaisirs. En fait, je blague avec tout le monde. Je suis super bonne humeur. Je pense que c'est la drogue. Moi, j'étais de super bonne humeur. Je voyais mon bébé. On voulait bien me donner des compresses d'eau. On m'a laissé boire de l'ice tea. C'était le bonheur absolu. Non, j'ai vraiment été super contente, quoi. Je vais en réanimation, quoi.
Ah, vaut mieux le prendre comme ça.
Mais ouais, je pense que c'est la drogue. Hein. Je pense que vraiment, c'est ce qu'ils m'ont filé. Et donc, on m'a amenée en réanimation pour vérifier les poches de sang, sauf que très vite le lendemain, ils se sont rendus compte qu'ils avaient tellement bourriné mes intestins à force des deux opérations que mes petits intestins, ils ne voulaient plus fonctionner. Ils étaient bloqués. C'est plus qu'une occlusion intestinale, parce que ça arrive à pas mal de femmes aussi avec les césariennes. C'est un ileus paralytique, quoi. Ça veut plus fonctionner. C'est comme s'il dormait, en fait. Il y a plus du tout de bruit dans le ventre. C'est comme un amas qui est en veille. Voilà. Donc, après, j'ai passé 10 jours à essayer de réveiller mes intestins.
Ah oui. Donc, t'es restée à l'hôpital pendant 10 jours?
En fait, je suis restée en réanimation pendant 10 jours avec sonde gastrique. Parce que donc je pouvais ni me nourrir toute seule, ni faire mes besoins. Donc j'avais une chaise percée qu'on me donnait de temps en temps pour essayer. On me filait des médocs, une sorte de desktop qui essaie de déboucher les intestins. J'avais de la morphine et j'ai commencé comme ça, essayer d'allaiter avec une machine pour qu'on jette mon lait. Et j'avais mon bébé en peau à peau quelques heures par jour qu'on m'amenait Et j'ai eu du bol parce que je crois que quelques mois avant avec le Covid, j'aurais même pas pu les voir en fait.
Oui.
Avec les protocoles.
Parce que là, du coup, le papa est rentré chez vous. Non, il est resté sur place avec le bébé.
Il est resté à la maternité. Alors, ça a fait flipper certaines aides-soignantes le matin quand il était dans mon lit de maternité pendant 10 jours.
D'accord, dans la même chambre avec toi.
Ouais. Au bout de plusieurs jours, on m'a dit, si vous voulez, ils peuvent rentrer. Je lui ai dit, bah écoute, il n'a jamais vu autre chose qu'un hôpital, vous pouvez rentrer, quoi. Même si ça me faisait mal au cœur, parce qu'en fait, il passait entre deux hôpitaux par les sous-sols avec le petit berceau. Il n'avait pas le droit de sortir avec le bébé en dehors de l'hôpital, avec les protocoles Covid. Donc, il pouvait juste passer par les sous-sols. Et en fait, il m'a dit, non, je ne vais pas partir. En fait, si je suis à la maison, ça va être encore pire. Je vais avoir les trajets à me taper. Là, je suis arrêtée, je suis accompagnée. Si j'ai besoin d'aide, il y a quelqu'un. Il a dit non, je reste en maternité.
Alors, comment s'est passée cette coloc pendant 10 jours à 3 dans la petite chambre de maternité ?
C'était pas dans la. Du coup, moi, j'étais en réa. Lui, le matin, moi, je me faisais un peu torturer le matin. Lui, le matin, il apprenait à comment on s'occupe d'un bébé. Et puis, ensuite, il me l'amenait. Et il venait dormir sur un tapis de gym tellement il n'en pouvait plus.
Ouais.
Dans ma salle de réanimation, et moi je faisais du pot à pot et mon bébé dormait sur moi, vu que c'était un peu le seul truc que je pouvais faire. On a fait ça pendant pas mal de jours.
T'as réussi à te connecter avec ton bébé malgré tout, toutes ces séparations et...
ouais, alors ce qui est un peu drôle, c'est que j'en blague, je n'ai pas vu le sexe de mon enfant avant plus de 10 jours en fait. Il y avait une partie que j'avais pas vue parce que quand j'ai accouché, il y avait le champ, donc je voyais pas bien le bas. Et en fait, chaque fois qu'on me l'a mis, il avait une couche et je n'étais pas capable de le changer. Donc, la première fois que j'ai vu Joël, bonjour, je n'étais pas sûre qu'il y avait ça là-dessous. Voilà. Donc, ça s'est bien passé dans l'ensemble. J'étais déphasée, quoi. J'étais sous morphine, kétamine. J'étais un peu déphasée, mais avec un truc très... Je trouvais ça presque grisant. Il y avait vraiment la lutte, quoi, de réapprendre à marcher. Les premiers pas, tout le monde m'a applaudi. Je disais, moi, tous les jours, je veux sortir dans la rue et qu'on me dise « Ouais !» dès que je marche. Donc, il y avait aussi des moments un peu grisants, en plus des moments très compliqués ou douloureux. Voilà. Et j'ai réussi à allaiter uniquement quand je suis sortie de réanimation. Parce qu'en fait, j'ai fait 10 jours de réanimation. On m'a sortie de réanimation pour me mettre dans un service chirurgical plus proche de la maternité. Ils ont réussi à me trouver une place en gynéco, chirurgie gynéco. Comme ça, il n'y avait pas tout ce trajet de 20 minutes à faire à pied. Et j'avais toujours la sonde gastrique et la voie centrale au cou pour pouvoir tout ce qui était perfusion. Donc, du coup, ils ne pouvaient pas me laisser en maternité. Donc, j'ai quand même fait plusieurs jours aussi dans un autre service. Et enfin, j'ai fait 5 jours de maternité. En tout, je suis restée 2 semaines et demie à l'hôpital.
Ah oui, après, tu es retournée en maternité ?
Oui. Ils ont quand même me donné quelques tuyaux après.
C'est-à-dire ?
Disons qu'ils m'ont dit que c'était obligé que je fasse un séjour en maternité. Je n'avais pas du tout eu d'accompagnement, en fait. Parce que j'ai demandé plein de fois qu'on vienne éventuellement jusqu'en réa me montrer comment on allaitait. Mais en fait, personne ne pouvait venir. C'était trop loin, trop... Donc, il fallait un petit peu d'accompagnement quand même.
D'accord, ok. Donc là, tu restes 5 jours après...
En maternité.
Comment se passent ces 5 jours ?
C'était la grève des sages-femmes que je soutiens activement. C'était le week-end, donc ça a été un petit peu flottant. J'étais quand même un peu accompagnée, mais pas tant que ça.
Ouais.
Et puis, il faisait hyper chaud. On était en juin, tout avait rouvert. En fait, ce qui était dingue, c'est que c'était l'ouverture. Moi, la télé, c'est la seule fois de ma vie que j'ai eu autant de bonnes nouvelles. J'étais enfermée dans un lit de réanimation, puis enfermée à l'hôpital. Et en fait, tout le monde disait « Super, les musées réouvrent, les terrasses réouvrent !» Tout le monde faisait la teuf. Et il était hyper beau et 35 degrés. On était enfermés dans la chambre d'hôpital. Donc clairement, j'avais qu'une envie, c'était de sortir. Ouais.
Et donc au bout de 5 jours, tu as pu rentrer chez toi avec ta petite famille ?
Ouais. J'avais pu sortir une fois pour voir des copains et dehors, devant l'hôpital, je me suis engueulée parce que protocole Covid, j'avais pas le droit. Donc j'ai fait bon. Voilà. Donc quand j'étais contente de sortir, ouais.
Ouais. Comment s'est passé le retour à la maison ?
Ça allait, c'était très fatigant, quoi. Et puis surtout, je sentais quand même, j'avais toujours quelque chose qui n'allait pas parce que j'avais une sensation d'avoir une brique dans le ventre.
Ah oui. Qu'est-ce qu'on t'avait dit avant ta sortie ? Ça en était où de...
On m'a expliqué qu'on m'avait capitonné l'utérus, que c'est une pratique qu'on fait lors d'hémorragie de la délivrance, comme j'avais perdu 5 litres en tout, quand il y a eu vraiment une grosse hémorragie massive. ils font une sorte de rôti, on m'a donné cette image, avec l'utérus, où ils vont mettre, faire plusieurs trous et mettre des fils pour être sûr que ça saigne plus.
D'accord.
Voilà, donc je savais juste ça, qu'on avait utilisé cette pratique-là, le capitonnage. Et j'ai eu un rendez-vous post-opératoire en juillet, donc j'étais sortie mi-juin, où j'avais fait un scanner, on m'a expliqué que j'avais toujours un hématome de 10 cm, donc à peu près une bonne boule, quoi, coincée dans l'utérus. Donc j'étais enceinte d'un gros tas de sang. Donc c'est pour ça que j'avais toujours l'air enceinte de 6 mois et que je galérais à marcher ou à me bouger un peu. J'étais encore, c'était encore compliqué, quoi.
Et ils t'ont dit que ça allait se résorber tout seul, Anne?
Non, ils m'ont tout de suite dit, il est très gros, donc on va vous réopérer en août, en hystéroscopie, on va passer par en bas et on va aller enlever cet hématome.
D'accord.
Parce que moi, j'avais prévu de partir en tournée, parce que je chante dans une chorale de femmes que je guide et on est 60. Là, en tournée, on est plutôt 30-40, donc j'avais prévu rien à faire, je vais guider une chorale, et on m'annonce ça, donc je dis, non, je vais pas faire ça. Et j'ai attendu un mois, du coup, en latent, j'avais un peu peur que ça pète, je savais pas trop, j'étais un peu en stress de savoir qu'est-ce que c'était que cette grosse boule dans mon bide.
Et alors, en attendant cette nouvelle opération, comment ça se passe le retour à la maison avec ton petit bébé? Est-ce que tu te sens tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman?
Je pense quand même, pour en discuter, là, j'ai une copine qui vient d'accoucher quand même. Les débuts, on est un petit peu dans un flou. Alors moi, je sais pas dans quelle mesure mon état a eu un rôle là-dedans, mais finalement, je pense que toutes les jeunes mères, on dort pas, on est dans l'action, quoi. Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment qu'on réfléchit, qu'on n'a pas le temps de réfléchir, quoi. On est tout le temps dans l'action et dans une forme d'urgence. Moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Donc, ça se passait bien. Hein. J'étais quand même super contente de l'avoir, ce petit chat. Hein. Et j'étais étonnée que cet éloignement, quand même, qu'on avait eu n'ait pas créé des difficultés de lien. Mais j'ai quand même ressenti, je l'ai dit à mon conjoint, à partir du moment où je l'ai plus associé à de la douleur, ça m'a fait du bien. Parce qu'en fait, dès que je le portais, j'avais un truc mère sacrificielle, quoi. Je suis trop mal, mais rien à faire. Je porte mon bébé, je l'allaite, je gère. Il y avait un truc un petit peu, tout pour le tout, rien à faire. Je suis une mère, quoi.
Ouais. À quel moment t'as réussi à prendre un peu de recul là-dessus?
Quand ça s'est un peu calmé. Et puis, je crois, quand on est parti en vacances, parce qu'on a fait le choix quand même si j'avais cet hématome coincé, on est parti en famille, en se mettant pas trop loin d'un hôpital. Dans une ville, du coup pas à la campagne, pour rester entourée. Et là, j'ai eu de la famille, j'ai eu plein de gens avec ça. J'ai pensé beaucoup à cette phrase. Je trouve très juste qu'il faut un village pour élever un enfant et vraiment d'être dans un contexte où à la fois il y a des enfants, il y a des gens. Moi, j'étais en difficulté, mais on était beaucoup moins en tension et dans le jus, quoi. Donc cette étape-là nous a fait du bien. J'ai pu prendre du recul aussi.
Alors, mois d'août, arrivée de ta nouvelle opération. Donc là, c'est quoi? C'est la troisième?
Il y en a eu deux le soir même, en plus de la césarienne. Et donc là, c'est la troisième. Donc, on me refait une anesthésie générale. On repart au même hôpital. On est un peu stressé, mais on m'a dit que c'était en ambulatoire. Donc, je me dis, ça va aller. C'est la petite dernière. J'ai appelé plusieurs fois ça le nettoyage de printemps d'utérus. Je me suis dit, allez, on y va, c'est la dernière. On va me nettoyer ça et puis ça ira. Et suite à l'opération, la chirurgienne que j'adore, qui est celle qui m'a beaucoup aidée, qui me dit, je suis vraiment désolée, mais avec ma caméra, dans un gros tas de sang, on voyait pas grand-chose, donc il est possible que j'ai pas tout enlevé. J'ai enlevé des fils, elle me dit, c'est peut-être parce qu'il y a un contexte hémorragique, ils ont eu du mal à partir, mais j'ai enlevé la plupart, donc vous allez vous sentir beaucoup plus légère. Mais j'ai pas tout enlevé. On se revoit en septembre, on essaie de voir s'il y a besoin d'y retourner. Voilà. Donc en septembre, c'est moi qui l'ai recontacté parce que je commençais à me demander. Je sentais que j'étais toujours un peu bizarre quand même et que j'étais pas. Après, je venais d'accoucher, donc c'est toujours difficile de savoir. Tout le monde dit, oui. Mais quand tu viens d'accoucher, t'es crevée. Quand tu viens d'accoucher, t'as mal partout. Donc du coup, je savais pas trop quoi. J'ai fait quand même un autre examen en septembre pour vérifier que mon hypophyse n'était pas abîmée parce que lors d'hémorragie, il peut y avoir cette glande du cerveau qui est un petit peu nécrosée.
D'accord.
Ça arrive d'avoir des dérèglements hormonaux à cause de ça. Et en fait, non, ça allait. Donc ça, c'était ma bonne nouvelle. J'ai attendu un mois avant de le savoir, mais c'était bon. Et ensuite, elle m'a refait un examen et elle m'a dit, effectivement, il reste des caillots de sang et des fils. Mais elle me dit rien sur l'histoire des fils. Elle me dit juste qu'il y a des caillots de sang et des fils. D'accord. Et donc, je vous réopère le mi-octobre. Donc, mi-octobre, sauf que je vais, une fois que j'ai fait cet examen, je me suis vidée de pertes terribles qui sentaient la vieille poissonnerie pendant des jours. Donc, je me suis dit, j'ai un problème quand même. Ouais. Donc, je suis allée aux urgences et on m'a dit, mais non, vous n'avez pas de problème, vous attendez l'opération, vous êtes opérée la semaine prochaine. Je suis d'accord. Et après l'opération, elle vient me voir, la chirurgienne, et là, elle est très embêtée. Elle me dit, bon, bah, de mon côté, tout est nickel. J'ai tout enlevé. J'ai bien tout nettoyé. J'ai enlevé les fils qu'il y avait. Mais par contre, je me dis que c'est pas du tout normal de trouver des fils 6 mois après. Donc, je crains qu'en fait, il y ait une erreur et qu'ils soient trompés entre les fils résorbables et les non résorbables.
Ah.
Donc, j'ai pris des fils pour analyse. Je les ai envoyés pour analyse. Et voilà, j'ai cette crainte. Donc là, j'ai envie de rire. Je sors d'anesthésie générale. Et en fait, je la crois pas vraiment. Et je lui dis, mais c'est quoi cette histoire? Je n'ai pas du tout. Tu vois. En fait, j'imprime sans imprimer quand elle me dit ça. Je suis en colère, mais en même temps, j'y crois pas vraiment. Et c'est après l'opération, je me retrouve à me tordre de douleur sous tramadol. Je suis née avec 39,5 de fièvre 3 jours après. Donc, je vais aux urgences. J'attends 11 heures sur une chaise. Et je finis par être hospitalisée avec perfusion. Et on m'explique que je dois prendre des perfusions d'antibiotiques costauds parce que j'ai une grosse infection quoi, qui s'est installée. On m'autorise à sortir au bout de 4-5 jours et en me disant il n'y a plus qu'à continuer les antibios. Je dis ah bah super, je pars en vacances jeudi avec mon bébé pour les vacances de la Toussaint, on va voir la famille, donc super. Elle me dit ah non, par contre, vous devez sortir mais avec des perfusions. Donc je me suis retrouvée avec cathéter à faire les perfusions 3 fois par jour avec un infirmier. Et j'ai quand même réussi à organiser des vacances là-dessus, à trouver à l'endroit de vacances d'un infirmier qui venait pour ne pas gâcher mon anniversaire et qu'on fasse ça, qu'on n'annule pas les vacances en famille, quoi. Et donc, elle m'explique que quand je la revois après tout ça, qu'il y a confirmation et qu'il y a bien une erreur de fil et qu'il va falloir me réopérer parce qu'elle me dit, là, je comprends pas, en fait, mais vous avez tout nettoyé. Elle me dit, oui, mais le problème, c'est les nœuds des fils. C'est que quand on vous a ficelé l'utérus, vous étiez ouverte. Et moi, je suis passée par en bas, je suis allée enlever tous les fils. Et le problème, c'est que maintenant, il reste les nœuds des fils. Et je dis, ça se voit sur une radio. Elle me dit, non, c'est trop petit. Donc, il va falloir aller à la pêche aux nœuds et chercher avec la caméra en cœlioscopie pour trouver tous les petits bouts de fils qui restent.
Comment tu réagis, toi, à ce moment-là?
J'ai juste envie de rigoler, quoi. Je suis vraiment dans un truc, mais vous allez me laisser tranquille à un moment donné. Parce que on dirait une blague, quoi. Au bout d'un moment, on ne sait plus comment réagir, en fait. Et je dis à la chirurgienne, elle me dit, vous savez, vous pouvez craquer. Mais en fait, je lui dis, mais je ne suis pas en capacité de craquer, j'hallucine, en fait. Je n'ai pas vraiment envie de pleurer, là, j'ai envie de rigoler, je suis désolée. Donc, je suis à la fois outrée, en colère, et j'ai envie de rire. Voilà. Et j'attends donc cette opération de fin novembre, parce qu'il fallait laisser le temps de me remettre quand même, qui devait être en ambulatoire, durer 1 heure ou 2, et ça n'a pas été le cas. Du coup, il me réopère, et en fait, ça a duré 4 heures, parce que j'avais des abcès de pus, en fait, qui s'étaient développés dans les trompes, dans l'abdomen, et donc il a fallu drainer tout ça. Donc mon conjoint s'est retapé une journée, à attendre toute une journée, à savoir ce qui m'arrivait. Et on a essayé après de me poser 3 fois ce qui s'appelle un midline, c'est-à-dire que c'est une voie veineuse qu'on met dans le bras parce que les antibiotiques, ça bouffe les veines, donc on pouvait plus mettre des cathéters normaux. Donc du coup, il fallait mettre un truc costaud, profond. Et ils ont essayé 3 fois sans anesthésie, ils ont été sympas, ils n'ont pas réussi, les veines ne voulaient pas. Donc je suis restée à l'hôpital à nouveau pendant 4-5 jours jusqu'à ce qu'on finisse par réussir à me mettre ce midline. Et l'endroit où ils ont choisi de me faire ça, c'est la salle dans laquelle je m'étais réveillée après mon accouchement. Donc, je suis retournée à l'endroit où j'ai pété un câble. Je fais, non, mais vous pouvez pas me ramener là, c'est pas possible. Vous allez me laisser tranquille. Donc, je suis retournée. En fait, finalement, c'est pas plus mal parce qu'au moins, c'était la boucle est bouclée. Je suis retournée au premier endroit au bout de 7 mois. Et on a réussi à me mettre ce midline et j'ai refait 10 jours de perfusion à domicile, 3 fois par jour. Et ensuite, ça s'est terminé. Et voilà. Et j'ai su en janvier que ça y est, je pouvais arrêter la carte d'abonnement à l'hôpital. Voilà, ça aurait été un sacré périple.
C'est clair. Et pendant ce temps-là, l'autre utérus, lui, se portait bien.
Ouais, lui, il se porte très bien. On ne sait pas s'il fonctionne. Il n'y a pas de raison, parce que quand on voit les trompes fonctionnent. Et il y a des femmes, en tout cas, je suis sur un forum de discussion avec des femmes d'un peu partout dans le monde qui ont ma malformation. Alors, j'ai envie de rassurer aussi les femmes qui ont deux utérus. Il y en a plein qui accouchent et tout va bien.
Ouais. Oui, ce n'était pas lié forcément au fait que tu aies un double utérus. T'es deux utérus.
Bah, la question que je me pose, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est quand même que je trouve qu'il... Et ça, on n'est pas d'accord avec mon obstétricien. Je trouve que on aurait dû m'écouter quand même sur mon ressenti, je trouve. Et que, en général, les femmes qui sont enceintes de jumeaux ou qui ont des macrosomies, on essaie de leur faire plutôt des accouchements autour de 8 mois. Moi, j'avais un bébé à terme. Et il y a plus de risques, quand je lis des thèses sur les hémorragies de la délivrance, plus de risques pour les femmes enceintes de jumeaux, macrosomies et malformations utérines. Alors certes, c'est quelque chose qui arrive très rarement et je rassure toutes les femmes, les hémorragies de la délivrance de 5 litres, ça n'arrive pas normalement. Oui. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même un facteur risque qui aurait pu être pris en compte et qu'on aurait pu discuter avec moi éventuellement de la faire plus tôt, cette césarienne. Parce que je pense que ça a participé à le travail sur l'utérus fatigué. Moi, c'est mon point de vue en tout cas que ça a pu participer parce que une hémorragie de la délivrance, ça se passe parce que l'utérus se rétracte pas. Et pour moi, il avait pu peut-être la force de le faire, je ne sais pas. Ouais. Et après, il y a eu toute la difficulté parce qu'ils avaient du mal à comprendre comment fonctionnaient mes utérus pour trouver l'endroit de l'hémorragie. Ça a complexifié la chose d'avoir ces deux utérus. Mais en tout cas, il y a plein de femmes qui arrivent à accoucher et même par voie basse avec deux utérus. Plein de femmes qui arrivent à tenir des grossesses jusqu'au bout comme moi parce que c'est aussi ça l'information que je veux donner. C'est que quand on regarde sur Internet, en fait, il y a des trucs très sensationnels. Une femme accouche avec deux utérus. Incroyable. Et donc, s'il y a quelque chose vraiment qui donne l'impression qu'on est des freaks et que ça va pas fonctionner. Alors que quand même, on m'a accompagnée dans le fait que bon, bah, c'est une malformation, mais on peut mener à bien une grossesse. J'ai pas eu de bol sur plein d'autres choses, mais je pense quand même que on peut avoir des bébés quand on a deux utérus.
À la preuve. Tu sais combien il y a de femmes qui sont concernées par cette malformation ?
Eh bien, c'est pas très clair parce que sur les utérus, les deux utérus, on dit que c'est peut-être 0,1% de la population qui aurait des femmes qui auraient ça. Les didelphes, c'est peut-être un peu plus rare, justement. Ce type d'avoir vraiment la paroi ou le double vagin complet, je crois que c'est un peu plus rare. Mais avoir deux utérus, en fait, ça arrive assez c'est pas fréquent, quoi. Mm. Je crois que j'ai dit peut-être des bêtises, je suis fatiguée, mais c'est 1%, pas 0,1. Je dis 0,1, je sais plus. C'est 1% des femmes qui ont deux utérus, après c'est peut-être un petit peu moins. Donc 1%, bah, une femme sur 100, c'est pas si rare en fait. Ça arrive quand même fréquemment. Et il y en a qui tombent enceintes de jumeaux, ça arrive. Ou de jumeaux, un dans chaque utérus, ou deux dans un, ça arrive aussi. Parce que malgré tout, bah, ça reste quelque chose. On ne sait jamais jusqu'à quel point ça peut s'étirer, quoi. Il y a bien des femmes qui sont, ce qu'on me disait, des femmes qui sont enceintes de 9 en même temps. Bon, ouais. Après tout, un dans un demi, petite joueuse.
Et donc, toi, tu as échangé avec d'autres femmes qui étaient concernées. Comment t'as, à quel moment tu as souhaité discuter avec d'autres femmes ?
Bah, j'avais jamais regardé avant. Même pendant la PMA, je n'ai pas cherché, en fait. C'est marrant, je n'ai pas éprouvé ce besoin. C'est vraiment la grossesse qui m'a fait dire « Bon, là, je suis dans le truc. Il faut que j'ai des infos et j'en trouve pas. » Donc, j'ai trouvé un groupe de discussion américain sur Facebook sur les utérus d'Idelph. Et il y a 1000 femmes à peu près dessus.
Oui, quand même.
Surtout des anglo-saxonnes. Je suis la seule française sur ce petit groupe. Et ça nous a permis, c'est un groupe de soutien, mais aussi pour poser des questions. Après, il y a vraiment ce truc un petit peu comme dans des groupes de PMA, de mettre trigger warning si on a une mauvaise nouvelle à annoncer ou des choses comme celles qui perdent éventuellement un bébé ou qui ont des accouchements prématurés qui se passent mal. Ou moi, dans mon cas, l'hémorragie, on prévient quand même, mais ça permet effectivement d'avoir des informations. Moi, ça m'a beaucoup aidée en tout cas. Et aussi de savoir justement qu'elles étaient très peu quand même à aller jusqu'à 40 semaines. Elles étaient beaucoup à ne pas avoir de bébé prématuré. Donc ça m'a rassurée. Elles sont beaucoup allées jusqu'à 37 semaines. Mais c'est vrai que sur les dernières semaines, j'ai l'impression que c'est quand même plus compliqué.
Et c'est quoi les questionnements de toutes ces femmes alors qui reviennent, les questions qui reviennent, que ce soit sur la maternité, la sexualité
Les thèmes qui reviennent le plus souvent, et c'est souvent comme ça dans les groupes, au lieu d'aller chercher une discussion qui a déjà eu lieu, et j'en repose la même question, mais ce qui revient souvent, c'est est-ce que je dois me faire enlever ma cloison vaginale ? Et là, il y a débat, celles qui disent « bah oui, grâce à ça, j'ai pas besoin de mettre de tampons, ou j'arrive à en mettre un, ou c'est plus facile pour mes relations sexuelles ». Il y en a qui disent qu'elles arrivent très bien, en fait, en fonction de comment est la paroi. Donc, il y a plusieurs avis. Dans l'ensemble, beaucoup disent que celles qui l'ont fait le regrettent pas. Voilà, parce que c'est la seule chose qu'on peut opérer.
Ouais.
Et c'est vrai que moi, ça m'a permis d'avoir un sentiment de normalité qui m'a fait plaisir, quoi. Donc, il y a ce débat-là. Il y a est-ce que c'est possible de tomber enceinte ? Ça, c'est toutes les jeunes qui se demandent ça. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que... Et puis, il y a toute la question de la prématurité. Et puis, des questions normales de femmes enceintes aussi, tout simplement. Tiens, bah là, je me sens comme si. Est-ce que c'est normal à telle semaine ? Il y a toutes les questions qui sont plus générales sur la maternité. Et après, beaucoup de questions, césarienne ou pas ?
Oui.
Et la plupart, c'est césarienne. Mais il y en a qui accouchent par voie basse aussi. Et même en siège, donc c'est possible.
Et toi, dans ta traversée de la maternité, est-ce que tu as senti que les soignants étaient informés sur le fait d'avoir des patientes à deux utérus, ou ils étaient un peu en recherche et...
Bah oui et non, en fait. Je sais pas trop. Ça dépend quel soignant. J'ai eu des soignants qui étaient un petit peu étonnés, qui connaissaient pas du tout ça. Ça dépend si on est dans des soignants spécialisés en gynéco ou pas. J'ai eu un mec qui a été affreux pour une hystérosalpingographie qui m'a envoyé bouler en me disant qu'il comprenait rien à mon machin.
Non.
Après m'avoir fait souffrir le martyr, il a été horrible, c'était un radiologue. Donc lui, par exemple, lui, je pense qu'il y a des personnes qui, lui, étaient absolument pas au courant, par exemple, et je pense que... Par contre, il y a un conseil que je donne, c'est quand on a une pathologie, il faut pas aller voir le radiologue du bout de la rue quand même, qui fait d'habitude des radios du coude. Il faut quand même aller plutôt dans une maternité avec des gens qui ont l'habitude de voir ces pathologies. Et c'est vrai que j'ai pas toujours eu les bons réflexes, je crois. Après, dans les hôpitaux, ben j'ai eu la double impression, parce que je sais pas parfois si les gens essayent pas de me rassurer aussi en me disant oui, bon ça c'est normal, on a l'habitude. Est-ce que c'est sincère ou pas ? Je sais pas, par moment. Voilà, sur mon obstétricien, bah, j'ai été intriguée parce qu'à la fois, il m'a dit « Oui, nous, on a tout à fait l'habitude. » En même temps, il a passé ce coup de fil pour savoir s'il fallait cercler. Donc, ça veut dire qu'il savait pas. Et en même temps, jusqu'au bout, il m'a dit « Il n'y a pas de souci, on peut aller jusqu'au bout de la grossesse. » En fait, c'est ça, je suis quand même toujours dans un doute, en fait, voilà, par rapport à ça. Parce que bah, quand j'ai été à la maternité le soir de mon accouchement, j'avais pas l'impression que les gens s'y connaissaient beaucoup, alors que c'est une maternité qui a l'habitude des cas compliqués. On m'a à la fois dit, on a l'habitude des cas compliqués, donc ça, c'est pas tellement un cas compliqué. Et en même temps, j'ai parfois eu le sentiment d'être avec des gens qui n'avaient pas l'habitude du tout. Ouais. Je sais pas.
Et alors, cette problématique de fil non résorbable qui t'ont mis, donc cette erreur médicale finalement, est-ce qu'il y a des suites par rapport à ça ?
Bah, des suites juridiques, ouais.
Ouais.
Disons qu'ils ils m'ont proposé, eux, de voir avec leur service juridique. Mais ça m'a fait un double effet. Là, je me lance finalement et je ne fais pas avec leur service juridique. Je fais avec une instance qui s'appelle la CCI ou l'ONIAM. En tout cas, la CCI, elle est là pour indemniser les victimes d'erreurs médicales ou d'aléas thérapeutiques. Et l'avantage de la CCI, là, je vais envoyer mon courrier aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est des médecins qui sont extérieurs à l'hôpital qui vont juger de la situation. Alors que souvent, quand on utilise les services juridiques des hôpitaux, ce sont des anciens médecins de l'hôpital qui vont statuer sur ce qui s'est passé. Et donc, on n'est pas complètement assuré de la neutralité, en fait, de ces médecins. Donc, si on veut vraiment, parce que le but de tout ça, c'est surtout d'avoir des réponses, le dédommagement est là pour, la réparation est là pour pouvoir tourner la page, en fait. C'est vrai que si on a encore des questions qui trottent en se disant est-ce que c'était des gens qui étaient objectifs, ben en fait, ça suffit pas. Donc, je conseille d'utiliser, en tout cas, la CCI, c'est dès qu'il y a eu vraiment une vraie erreur médicale qui d'un certain impact. Voilà. C'est qu'il faut avoir Il faut que ce soit assez lourd pour contacter la CCI. Voilà, c'est ça.
Ouais.
Mais je le fais à l'amiable. Mais le problème, c'est que quand il m'a annoncé ça, bah, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que finalement, cette jeune obstétricienne qui m'a suivie, ben, j'ai beaucoup d'empathie pour elle. En tout cas, l'équipe finalement qui m'a suivie, c'est que j'ai vu leur situation d'être débordée, d'être en manque de personnel ce dimanche soir-là. Et qu'en fait, cette erreur qu'ils ont faite, elle est grave. Effectivement, j'aurais pu, je pense, à nouveau y rester, hein, parce que j'ai quand même, si on avait laissé traîner le truc, ça aurait pu être très grave. Et en même temps, je me dis que moi, le problème, il est, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il est peut-être plus en amont de peut-être, voilà, j'avoue que on en a beaucoup discuté avec mon obstétricien et je sais qu'il est compétent et je suis dans, mais en fait, je peux pas m'empêcher de lui en vouloir de pas m'avoir fait la césarienne plus tôt, qui aurait peut-être évité tout ça. Je peux pas, en fait, je reste quand même dans ce doute-là. Et puis l'accueil aux urgences aussi qui me questionne sur si on avait évité l'hémorragie, peut-être qu'on aurait évité tout ça. Et finalement, ma colère, elle n'est pas vraiment envers ceux qui ont fait l'erreur parce que je me dis que bah, les pauvres, quoi. Voilà, j'ai pas de colère contre eux, bizarrement.
Et pour toi, c'était immédiat le fait qu'il y aurait une suite juridique où tu as pris le temps de mûrir un petit peu tout ça, comment?
Bah, j'ai pris beaucoup le temps parce que le problème, comme ça s'arrêtait pas, j'ai pas pu, on m'a annoncé ça en octobre, on m'a dit, voyez le service juridique, et j'ai commencé à rédiger un courrier et à voir cette dame qui est enceinte jusqu'aux dents et à craquer en la voyant, en lui expliquant, mais en fait, j'avais encore une opération derrière, j'ai eu encore des complications derrière, donc j'ai laissé, ça a mis du temps, en fait. Et puis, par moments, j'avais envie de penser à autre chose. Je suis partie, j'avais envie de vivre, voilà. Donc là, je reviens dans ce courrier, finalement, bah là, cette semaine, on se rencontre, et ben, je me dis que c'est la dernière semaine, en fait. C'est la clôture. Je finis le courrier, et puis finalement, ça tombe bien, c'est le même jour où on se parle.
Ouais.
Et donc, ça a mis du temps, parce que c'est depuis octobre, en fait. Et là, et ça mettra au moins un an, je crois.
Est-ce que tu auras la possibilité d'avoir d'autres enfants, si tu le souhaites ?
En fait, c'est marrant, parce que tout de suite, même quand j'étais en réanimation, j'avais envie d'en faire un deuxième.
Ah oui, tout de suite.
Mais parce qu'en fait, je crois que j'ai adoré être enceinte et que je me suis dit, en fait, que j'avais l'impression qu'on m'avait volé quelque chose. Je sais pas si tu connais le livre qui s'appelle Les Petits de Marion Fayolle.
Non.
Je le conseille vraiment. C'est un livre d'illustration sur la maternité qui est magnifique. C'est grinçant par moments parce que ça montre que la maternité, c'est pas que du bonheur, mais il est magnifique ce livre. Donc, Les Petits de Marion Fayolle. Et en fait, il y a une image où on voit une femme qui est enceinte, mais il y a un trou avec la forme du bébé. Et il y a le papa qui a pris le bébé comme ça et qui l'a dans les bras. Et elle a l'air un peu triste et elle regarde son ventre. Je trouve, il m'a beaucoup touchée quand on m'a offert ce livre en réanimation. Parce que c'est ça que j'ai ressenti. J'ai eu l'impression qu'on m'a enlevée de manière très brutale. Et donc, j'ai eu envie et j'avais envie de refaire une grossesse pour réparer ça, en fait. Il y avait quelque chose un peu comme ça. Après, clairement, on m'a rajouté une cicatrice sur l'utérus avec la dernière opération. Les abcès de pus dans ma trompe font que peut-être elle peut ne plus fonctionner. On m'a dit, bah, si on refait de la PMA, on pourrait aller chercher dans l'autre trompe. Et si c'est que cet utérus-là qui fonctionne, j'ai dit non, je veux plus de PMA, je veux plus rien, vous me laissez tranquille. Ce bébé est arrivé naturellement dans toute cette folie. Donc, moi, c'est sûr que je veux pas refaire de PMA. Et le fait d'avoir une cicatrice en plus sur l'utérus, en plus de la césarienne, c'est qu'il y a plus de risques de rétention placentaire et donc plus de risques d'hémorragie. Donc, ça fait quand même beaucoup d'avoir à la fois un petit utérus abîmé. Je pense que mes proches, eux, me disent non, tu as un bébé magnifique, il est super, et il faut peut-être pas y retourner, quoi. Après, bon, j'ai galéré pendant 5 ans, donc je me dis peut-être si l'autre fonctionne, si par miracle, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura une autre grossesse un jour, mais je suis plus toute jeune, et puis non, je suis pas sûre, quoi.
Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes femmes qui, comme toi, à l'adolescence, découvrent qu'elles ont deux utérus ?
Bah, que c'est pas si rare, déjà. Parce que ça fait du bien de pas savoir que, enfin, de pas se dire qu'on est une bête de foire. Que ça a pas forcément d'impact sur la sexualité, même si ça questionne beaucoup. Moi, les débuts ont été un peu difficiles parce que je pense que la paroi devait gêner un peu mon premier partenaire.
Ouais.
Mais que finalement, la plupart des femmes vivent tout à fait normalement. Surtout celles qui n'ont pas forcément le dit d'elf, c'est-à-dire la paroi vaginale. Il y en a plein qui, ça leur change pas grand-chose, en fait. Et pour les grossesses, ben, y en a plein qui ont des utérus et qui ont des enfants. Donc, je pense que déjà de se dire, je suis pas si anormale que ça. Par contre, juste se dire que ces articles sensationnels sur Internet vont résumer, qui expliquent, je sais plus, à un moment donné, j'avais une fourchette qui disait qu'il y avait alors entre 40 et 60% de naissances viables avec deux utérus. Alors que je sais pas d'où sortent ces chiffres, mais en fait, de faire attention aux infos, entre guillemets, qu'on trouve sur Internet. Je pense de se rapprocher d'un groupe d'échange, peut-être avec des femmes, justement, qui sont concernées, qui peuvent donner des informations peut-être un peu plus fiables. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Eh ben, je m'occupe beaucoup d'un autre petit être. Non, je sais pas ce que ça a changé. Bah, comme je dis, j'ai du mal à faire la part des choses entre est-ce que c'est l'expérience que je viens de vivre qui m'a changée ou est-ce que c'est la maternité. Et je pourrais jamais faire la part des choses, en fait. De savoir est-ce que c'est parce que je suis maman que je suis plus flippée qu'avant, par exemple, que j'ai l'impression que même en voiture, je suis un peu plus stressée. Des choses du quotidien, il y a des choses qui me stressent plus. Ou est-ce que c'est parce que j'ai failli mourir que je suis plus stressée? Je n'en sais rien. Je sais juste que dans les choses positives, je me sens remplie d'amour, quoi. C'est un amour de dingue. Je l'adore, ce petit. En plus, il est sympa. Tout le monde nous dit, à la crèche, elle nous dit, il nous simplifie la vie. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il paraît que les bébés, quand la maman est pas fonctionnelle au départ, souvent, ils s'éteignent un peu. En tout cas, au début, il dormait beaucoup. Il a jamais beaucoup pleuré. C'est un gamin qui sourit tout le temps. Lui, il a pas l'air du tout d'avoir eu d'impact pour l'instant, Inch'Allah, de ce qui s'est passé, quoi. Donc, pour l'instant, je dirais qu'en tout cas, la maternité, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Le contexte a été difficile. Et il y a eu aussi beaucoup de stress, de souffrance, de tension aussi avec mon conjoint par moments parce qu'on se comprenait pas. Et je pense que, voilà, ça, par exemple, aussi, je me suis dit que sur la maternité, on parlait assez peu du fait que les débuts sont pas forcément faciles pour les couples. Et je me suis dit, bon, est-ce que ça, on en parle ou pas? Je trouve qu'on en parle de plus en plus, mais j'avais pas trop l'info là-dessus. Sur les débuts. Voilà, donc en tout cas, ça m'apporte beaucoup de bonheur, je crois que c'est surtout ça.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman lilloise ?
Une maman lilloise, une maman qui n'a pas peur du mauvais temps, mais en même temps, une maman très entourée, parce que c'est une ville assez culturelle, sociale, il y a beaucoup d'événements. Je crois que c'est une maman qui sort, ouais, une maman qui sort, qui amène son bébé un peu partout. Voilà, je crois que c'est ça. Un porte-bébé, une écharpe, un métro et pouvoir aller se balader avec son bébé.
Alors justement, quel est ton endroit kids-friendly préféré à Lille ?
Eh bien, alors, je ne peux pas dire que c'est mon préféré parce que je n'y suis pas encore allée, mais je trouve ça super que ça existe et je pense y aller très bientôt. Il y a à Lille Fille, il y a un café des enfants que des copines m'ont conseillé et ça a l'air super. Voilà, parce que ça propose des ateliers, en même temps, un lieu, dans les moments où je me sentais un peu isolée, un lieu où on peut accueillir des jeunes parents qui peuvent se rencontrer, boire un verre ensemble. Voilà, je trouve ça super comme principe. Après, je suis dans une chorale, je disais, de femmes où il y a 60 femmes, donc je dirais kids friendly, c'est quand je suis en galère, je peux aller voir mes copines et il y en a, elles sont toutes pleines à me filer un coup de main, quoi.
Comment il s'appelle le café ?
Ça s'appelle les potes en ciel. Les potes, les copains en ciel, le ciel. Ah, il y a un autre endroit que je conseille à Lille, c'est le magasin Ethics, par contre, qui est pas loin de chez moi, qui propose des ateliers de portage, langue des signes, avec des produits zéro déchet, tout ça. Il est super, ce magasin aussi, pour un accompagnement. Voilà.
D'accord. Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ceux prévus en famille ?
Projets familiaux et personnels. Personnel, c'est déjà de me reconnecter au monde normal. Je n'ai pas encore repris le travail. Il faut que je suis un peu perdue professionnellement parce que je vais mettre un peu de temps avant de retrouver complètement la forme. Et d'habitude, je travaille avec des groupes d'élèves, de 36 groupes d'élèves. Je me sens un peu fatiguée. Donc, projet, c'est d'essayer de progressivement me remettre dans la vie professionnelle. Et dans le monde normal. Et puis, je trouve pas ça facile de réussir après un bébé à reprendre du temps pour soi. Disons que là, je sais très bien m'occuper de mon bébé. mais j'ai un peu de mal avec ça. Donc les projets perso, déjà réapprendre à prendre soin de soi, à prendre des moments pour soi, voilà, même aller à la piscine, donc faire des choses très simples. Et puis en famille, on en a fait parce qu'on est parti à La Réunion voir ma famille, où je suis originaire de là-bas, à Noël. Et après, projet en famille, on ne sait pas trop. Pour la suite, on verra. Pour cet été non plus, on ne sait pas. On verra. Donc, il n'y a pas particulièrement de projet famille prochainement.
Merci beaucoup, Sarah.
Merci à toi. Désolée, j'ai beaucoup parlé.
C'est le principe même du podcast.
D'accord. je te remercie.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie maternité.